Limite.
Quelle est ta définition du réel?
C'est comme les maillons d'une chaîne.
Le point culminant de votre civilisation.
Préparez très fort, protéger ce qu'on aime.
Bravo, grand bienfaiteur de l'humanité.
On trouve en soi une force que l'on ne soupçonnait pas.
On ne peut pas résoudre un problème.
Exponential growth will take us to the limit.
Limite.
Very soon.
Avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème.
Aujourd'hui, avec Vera Nikolsky, nous revisitons l'histoire de l'émancipation féminine dans la perspective de pointer les facteurs qui menacent ses acquis. Vera Nikolsky, elle est essayiste, issue d'une famille de scientifiques russes. Elle est normalienne, titulaire d'un DEA de sciences sociales et d'un doctorat en sciences politiques et anciennement chercheuse associée au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. À travers le prisme de l'Anthropocène, nous allons tenter de comprendre les tenants et aboutissants qui ont permis aux luttes sociales des femmes d'arriver jusqu'à ce point-ci aujourd'hui.
Limite.
Quelle est ta définition du réel?
Vera Nikolsky, bienvenue sur cette chaîne. On s'appelle Limite, on est là pour parler des limites planétaires, parler d'anthropocène, savoir d'où est-ce que nous venons et vers où est-ce que nous dirigeons. De votre côté, bienvenue vous sur cette chaîne. Vous allez voir, la conversation qui va avoir lieu avec Vera va être incroyable parce que c'est sur une thématique qu'on n'a jamais l'occasion d'aborder. Donc je vous invite bien sûr à vous abonner, commenter, liker cette vidéo, bien entendu. Nous allons parler de féminicène aujourd'hui. Vera, comment est-ce que tu vas?
Bonjour, merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Je vais très bien. Je suis très contente d'être là. Et de parler effectivement de ce sujet qui apparemment jusqu'à aujourd'hui n'a pas vraiment été couvert sur votre chaîne.
Ah vraiment, et c'est drôle, la première personne qui nous en a parlé, de voir un petit peu les luttes sociales féminines à travers l'œil de l'Anthropocène, c'est Jean-Marc, dans une vidéo juste ici.
Il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec une personne qui aimerait sortir un livre, j'espère qu'elle va y arriver là-dessus et que je trouve très intéressant.
Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de te rencontrer, je ne savais pas du tout que c'était toi, et puis le livre est sorti et tout ça, j'ai été suivre un peu tout ton travail. Alors déjà, est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de toi, éventuellement, dire un petit peu qu'est-ce que tu fais dans la vie et quels sont tes hobbies aussi, si tu as envie?
Alors, moi j'ai une éducation pluridisciplinaire, on va dire, en sciences sociales. J'ai un DEA de sciences sociales, j'ai fait de la sociologie et de l'économie pendant mes études, et ensuite une thèse en sciences politiques, en fait en sociologie politique. J'ai enseigné pendant 10 ans à l'université, dans différentes universités, et puis ensuite, plutôt que de chercher un poste fixe à l'université, j'ai passé un concours de la fonction publique, donc maintenant je travaille dans une grande institution d'État, et je ne fais plus de la recherche-enseignement officiellement, mais je continue à réfléchir.
Tu sais, nous, ce qu'on adore ici sur Limite, c'est de se dire que l'humanité est une espèce vivante, comme il y a des millions et des millions d'espèces vivantes qui, à un moment donné, tombent sur des choses dans leur parcours de vie, qui leur permettent tout d'un coup de pouvoir coloniser d'autres espaces, d'autres lieux, parce qu'ils tombent sur une ressource abondante. L'être humain a évolué dans un contexte avec de l'énergie, avec des matériaux qu'il a réussi à prendre, mais dont il est complètement tributaire. Et forcément, à travers l'œil de l'Anthropocène, on comprend que c'est cette magie de ce qui a été à notre disposition, si elle n'avait pas eu lieu, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et je m'aperçois que derrière ça, ce qu'on a réussi à obtenir est bien plus complexe qu'il n'en a l'air. Et je voudrais qu'on remonte un petit peu dans le passé, avant de reparler de la situation des femmes aujourd'hui. Ma première question, c'est, est-ce que ça a déjà existé, une société égalitaire homme-femme dans l'histoire de l'humanité?
La nôtre est la société la plus égalitaire qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité dans son ensemble, c'est une succession de sociétés plus ou moins inégalitaires. Elles n'ont pas toutes été caractérisées par une inégalité criante. Il y a eu des selon l'endroit, selon l'époque, selon le type de société, il y a des degrés très différents de déséquilibre, d'asymétrie entre les hommes et les femmes. Mais toutes les sociétés humaines jusqu'à la nôtre se caractérisent par un certain déséquilibre, une certaine inégalité entre les hommes et les femmes. La liberté des femmes aujourd'hui est réellement à un niveau, à un degré qui n'avait jamais été atteint auparavant dans l'histoire. Ça, c'est le premier fait, disons, important qu'il faut noter et qui rend intéressante l'analyse historique. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les choses changent enfin après des millénaires d'une situation plus ou moins stationnaire, hein, inégale selon les endroits, variable parfois avec des reculs et des petites avancées, mais globalement quand même caractérisée partout par un certain degré d'inégalité.
Et ça ressemble à quoi, si on remonte à, on va dire, cette période de l'ère glaciaire qui a commencé à se réduire? Comment ça se passait pour la femme? Moi, j'ai toujours un peu ce cliché en tête de la femme au coin du feu avec les bébés, les enfants, etc. J'ai l'impression que j'ai une vision quand même très masculino-centrée. Mais savoir un petit peu, dès ce moment-là, comment ça se comportait dans les tribus, dans les peuples.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, à ces époques très éloignées, il est très difficile de dire des choses avec une grande certitude, et surtout avec un certain niveau de détail, parce qu'il y a très très peu de traces. Et plus on remonte loin, moins il y a de traces. Donc, le paléolithique, tout ce qui est antérieur à la révolution néolithique, c'est vraiment une période dont on garde très peu de vestiges. Et il y a vraiment quelques squelettes, quelques traces d'artefacts ou d'œuvres d'art qui ont été produites à cette époque. Donc il est difficile d'entrer dans le détail. Ce qui paraît incontestable aux anthropologues, c'est que l'être humain, dès ses débuts, notre genre homo, s'est caractérisé par un fonctionnement familial, donc avec une cellule familiale, un homme et une femme qui élèvent des enfants. Et ça, c'est quelque chose qui a existé au paléolithique, qui a perduré ensuite dans l'histoire. Ce qui se passe à la révolution néolithique et qui explique peut-être qu'il y a parfois une tentative de dépeindre un passé éloigné marqué par une égalité ou même, pourquoi pas, la domination des femmes, c'est que la révolution néolithique aggrave la condition des femmes, objectivement. Et là, pour le coup, on a quelques traces qui peuvent en attester. Mais même dans les sociétés primitives de chasseurs-cueilleurs, il y avait un certain déséquilibre entre les hommes et les femmes, probablement, d'après autant qu'on puisse en juger selon les vestiges qui restent, et aussi en partant de l'observation ethnographique des sociétés restées à l'état primitif au XIXe siècle. Et c'est une dissymétrie qui est avant tout due à la division sexuelle du travail, qui caractérise toutes les sociétés primitives, et qui s'est imposée pour des raisons probablement d'efficacité de la productivité du travail. Mmh. Dans une société qui ne dispose que de très peu d'outils, sans aucune base technologique, sans aucune commodité dont on a l'habitude aujourd'hui, où la productivité du travail est très faible, eh bien le corps des êtres humains est le premier outil de travail, et donc il doit être exploité à son maximum. Ce sont les sociétés qui ont le mieux exploité les caractéristiques du corps humain qui ont réussi à avoir une productivité du travail suffisante pour se maintenir, pour se reproduire et pour perdurer, donc pour laisser une descendance. Donc là, cette division sexuelle du travail qui s'est imposée très tôt, vraiment à l'orée de notre espèce, on peine à trouver un point d'origine, se caractérise par un monopole masculin sur la chasse au gros gibier. Mmh. Les femmes chassaient aussi, occasionnellement, mais plutôt du petit gibier et sans grand déplacement. La chasse au gros gibier, avec de grands déplacements, était socialement réservée aux hommes, en tant qu'activité sociale. Et la cueillette, et la chasse au petit gibier, le jardinage, le soin des enfants revenaient aux femmes. Et ce sont des choses qui s'expliquent d'une manière très simple, les caractéristiques de notre physiologie. Nous, en tant que genre, en tant qu'espèce, nous sommes une espèce sexuée. Et dans le processus reproductif, les hommes et les femmes n'ont pas le même rôle, n'ont pas les mêmes caractéristiques, n'ont pas les mêmes avantages. La femme, c'est elle qui engendre dans son propre corps. Donc, c'est la femme qui porte l'enfant. C'est la femme qui le met au monde. C'est la femme qui le nourrit ensuite. Et dans les sociétés primitives, dans les sociétés nomades, où il n'y avait pas d'agriculture, donc très peu de culture de céréales, les enfants ne pouvaient pas être sevrés très tôt. Donc, ils devaient être allaités longtemps. Mmh. Ils ne pouvaient pas passer tout de suite au steak. Et les hommes, au contraire, se caractérisent par une force physique en moyenne supérieure et une mobilité plus importante parce qu'ils ne sont pas grevés par les périodes de grossesse, par les périodes d'allaitement et par les petits-enfants qui forcément doivent accompagner la femme ou bien doivent être à proximité pour qu'elle puisse revenir les nourrir. Ça, ce sont les éléments matériels très simples et complètement, comment dire, indépassables dans une situation de rareté de ressources et d'absence de tout outil technologique performant capable de pallier cette rareté. Cette situation a donné quoi ? Eh bien, elle a donné cette spécialisation dans la chasse, et qui dit spécialisation dans la chasse dit spécialisation dans les armes, donc monopole des armes, et monopole de la guerre. Mmh. Monopole de la guerre qui, ça c'est une question que j'aimerais beaucoup creuser, s'appuie aussi sur le fait que les femmes doivent être préservées, parce que ce sont elles qui donnent la vie. Donc s'il y a une trop forte mortalité chez les femmes, le groupe va dépérir. Alors oui, qu'une forte mortalité chez les hommes, ce n'est finalement pas très gênant, du moment où il reste quelques géniteurs. Mmh. Le groupe peut se perpétuer. Donc l'ensemble de ces facteurs a déterminé une spécialisation des deux sexes, très tôt dans l'histoire humaine. Spécialisation motivée par la nécessité, mais qui, forcément, parce que l'être humain n'est pas juste une machine, il n'est pas juste un animal, qui se contente de subir ce qui lui arrive, les nécessités naturelles. L'être humain pense, l'être humain essaie de donner du sens à ce qui lui arrive. Mmh. Et il est aussi pourvu d'une certaine soif de puissance, d'une soif de pouvoir. Il y a aussi un antagonisme qui lui est propre. Simone de Beauvoir parle de l'impérialisme de l'âme humaine.
Qui que ce serait humain.
Oui, que ce serait humain. C'est-à-dire qu'un groupe qui se retrouve à avoir un avantage sur un autre, eh bien, oui, socialement, il se retrouve dans une position dominante. C'est-à-dire qu'il est très probable qu'il y avait une composante idéologique très rapidement, peut-être dès le départ. On peut pas vraiment séparer ces éléments objectifs des théorisations qui ont été tout de suite faites, de la normalisation qui en a découlé. La femme produit des enfants, c'est une tâche essentielle sans laquelle le groupe dépérit, mais ça veut dire que la femme doit faire des enfants, n'est-ce pas? Si c'est comme ça.
C'est là que culturellement, quelque chose se crée.
Voilà, et culturellement, les choses sont validées et elles se solidifient. Donc,
une femme arrive et part du principe que c'est ça qu'elle doit faire et estime même qu'elle en retire même un idéal en quelque sorte à ce moment-là.
Oui, c'est-à-dire que puisque les femmes ne peuvent objectivement faire que ça socialement dans des sociétés primitives, parce que si elles ne le font pas, le groupe dépérit, eh bien, oui, il y a une éducation de groupe qui se met en place. Mmh. Les filles sont préparées à une vie où elles vont majoritairement donner la vie, les hommes sont préparés à une vie où majoritairement ils vont chasser. Et ça tend à perpétuer des choses qui se solidifient en stéréotypes et en interdits, en normes, en assignations, comme on dit, à un rôle particulier dans la société. Donc ça, c'est le début. Et qu'est-ce qui se produit à la révolution néolithique? Eh bien, la révolution néolithique, c'est un moment où donc l'humanité devient sédentaire. On crée des villes, des villages permanents et apparaît l'agriculture. Le mode de vie change et avec le mode de vie change notamment la balance énergétique des êtres humains. L'alimentation change, on commence à bouger moins, parce que les chasseurs-cueilleurs se déplaçaient énormément tous les jours, ils parcouraient de très grandes distances. On commence à bouger moins, on mange plus de céréales, et avec ce changement de la balance énergétique, eh bien, les intervalles entre les grossesses des femmes se réduisent. Elles commencent à faire plus d'enfants, d'autant plus que c'est un moment où l'humanité a besoin de bras. Les groupes humains sédentaires, qui veulent défricher, qui veulent cultiver, ce sont des groupes qui ont besoin de main-d'œuvre. Mmh. Donc, il y a aussi un appel pour la natalité. Donc, les deux se conjuguent. On peut aussi sevrer les enfants plus tôt, parce que maintenant, on a la bouillie de céréales, donc ils peuvent commencer à manger autre chose très tôt. Donc, on estime que au moment de la révolution néolithique, les femmes commencent à avoir un enfant tous les 1 an, 2 ans, contre environ 4 ans, selon les estimations des paléodémographes à l'époque.
Et plus d'enfants aussi, alors, dans un sens.
Donc, beaucoup plus d'enfants, c'est le bond démographique de la révolution néolithique, où l'humanité fait un bond en avant en matière du nombre. Enfin, voilà. Et malheureusement, ce qui suit, juste derrière, c'est une augmentation de la mortalité. Et l'augmentation de la mortalité, qui suit avec un décalage, elle est due à toute une conjonction de facteurs. La plus grande densité de la population, l'insalubrité de l'eau, avec les latrines, les déjections humaines qui s'amoncellent au milieu ou à côté des habitations, et puis également l'apparition des zoonoses, qui datent de cette époque parce qu'on domestique le bétail, et le bétail domestiqué, eh bien, on vit avec à l'intérieur des habitations.
Ça saute plus rapidement.
Exactement. Et donc, c'est là que l'essentiel des maladies infectieuses que l'humanité connaît. Donc,
plus de mortalité, mais qui était compensée par plus de naissances.
Plus de natalité. Et donc, la mortalité rattrape la natalité. Donc, il y a un nouvel équilibre qui est créé. Donc, il y a un accroissement de la population. Et puis, on passe à nouveau à un régime où il n'y a pas trop d'augmentation. Mm-hmm. Mais dans un nouveau régime où on fait plus d'enfants. Et plus d'enfants meurent.
Et donc, le rôle de la femme devient encore plus primordial à ce moment-là, dans sa posture de poule pondeuse, en quelque
Exactement,
sorte.
Parce que malheureusement, les premières victimes des maladies infectieuses, ce sont les petits-enfants, tant des virus gastro-intestinaux que des maladies infectieuses saisonnières. C'est là qu'à partir de cette époque et jusqu'au 19e siècle, pendant toute cette période qu'on qualifie parfois par l'expression « régime démographique traditionnel », avec une natalité haute et une mortalité haute des enfants, un enfant sur deux n'atteignait pas l'âge adulte.
C'est énorme.
C'est énorme. Donc, pour garder 3 ou 4 enfants vivants, il fallait en produire 7, 8, 9, 10, pour être sûr d'en avoir qui reste vivant. Et ça, c'est quelque chose qui compte pour les groupes, du point de vue social, parce que le groupe doit se perpétuer, rester fort face à d'autres groupes qui s'établissent à côté et qui forcément lorgnent les ressources de votre groupe. Mais c'est également important pour chaque famille, parce que à cette époque, bien sûr, la sécurité sociale n'existe pas. Donc, quand les personnes deviennent âgées et qu'elles ne peuvent plus travailler de leurs mains, eh bien, si elles n'ont pas d'enfants valides vivants, qui vont prendre soin d'eux, c'est eh ça. Bien, il y a personne.
Ouais, parce que tu crées la valeur, les facteurs de production. En fait, tu es en train de créer simplement ceux qui vont pouvoir agrandir la ferme, continuer à perpétuer le travail, et effectivement prendre soin de toi, mais aussi une forme de survie du groupe,
De survie du groupe et une forme de survie de la famille ou du couple, des parents eux-mêmes. Donc, toute cette conjonction de nécessité, de facteurs matériels contraignants, fait que, la natalité reste très haute pendant le reste de l'histoire humaine, jusqu'à très récemment, jusqu'à ce qu'on arrive à faire baisser quoi ? Jusqu'à ce qu'on arrive à faire baisser la mortalité infantile. C'est le verrou qui empêche, quels que soient les désirs d'émancipation, les destins individuels isolés, qui empêche au niveau du collectif, au niveau du groupe, aux femmes de faire peu d'enfants. Tant que la mortalité infantile est haute, globalement, en moyenne, les femmes doivent faire beaucoup d'enfants.
Pour des personnes, par exemple, qui se disent « Ouais, mais la lutte d'émancipation des femmes, le droit de vote pour les femmes, toutes ces femmes qui ont été dans la rue, elles dépendent forcément d'un contexte, d'une civilisation thermo-industrielle à ce moment-là, qui a complètement redistribué les cartes. Et là, c'est quand même assez incroyable, parce que je voudrais qu'on essaye maintenant de se rapprocher un peu plus de notre époque contemporaine. On découvre, ou devrais-je dire plutôt, on sait comment exploiter le charbon, pour diverses raisons en fonction des pays, de la Belgique, on était, je crois, le deuxième pays à avoir lancé la révolution industrielle, et le droit des femmes est quand même vachement bien ancré, bien avancé chez nous, et tant mieux, pourvu que ça dure. Mais à ce moment-là, quels ont été les éléments, puisque tout d'un coup, on a retiré des gens des campagnes, il y en a toujours eu qui travaillaient, on les a fait travailler dans des grosses industries qui produisaient massivement plein de choses. Qu'est-ce qui a fait à ce moment-là? Est-ce que ce sont les femmes qui se sont dit « Ok, les filles, c'est le moment ou jamais, parce que les hommes ont réussi à avoir des acquis sociaux, nous aussi, il faut qu'on fasse partie de ça. » Ou alors, c'est vraiment le fait d'avoir amélioré notre confort, d'avoir amené l'eau dans des villes qui a permis tout d'un coup de faire baisser les mortalités infantiles, etc. Évacuer nos eaux usées, qui est le seul élément en fait qui a permis à un moment donné que la femme aujourd'hui puisse se retrouver presque l'égale de l'homme dans ce monde-ci.
Rien n'est jamais le produit d'un seul facteur. Déjà, ça, c'est une conviction de base sur laquelle je pense on peut tomber d'accord. Donc, il ne s'agit pas de dire que tout dans l'émancipation des femmes est dû au facteur matériel. Mais il s'agit effectivement pour moi, dans mon livre, d'appeler l'attention sur l'importance de ces facteurs matériels parce que ils sont totalement ignorés. Ils sont complètement passés sous silence. Comme s'il n'existait pas, comme s'il n'avait aucune importance. Donc j'essaie de rééquilibrer un peu le débat. C'est pour ça que moi je me concentre sur les facteurs matériels. Ça ne veut pas dire que je nie le rôle, l'intérêt, l'importance des luttes qui se sont produites à partir du 19e siècle. Je tends néanmoins à relativiser le poids de ce facteur lutte. Parce que quand on regarde d'un œil neutre, la nature des mobilisations féminines qui ont eu lieu à travers l'histoire, dans les pays occidentaux par exemple, eh bien on est frappé par leur caractère très réduit. On n'a jamais eu de lutte de femmes de grande ampleur comme des luttes pour les droits sociaux ou des guerres de libération nationale, par exemple au moment de la décolonisation. Les luttes des femmes se sont toujours limitées à l'expression d'idées, par l'intermédiaire de publications, de pamphlets, de sensibilisation de l'opinion, et quelques actions d'éclat de groupes très isolés, comme les suffragettes, mais ce sont vraiment de très petits épisodes dans l'histoire humaine.
Il n'y a pas eu des grosses mobilisations, de tensions, de violences.
Voilà, il n'y a pas eu de grosses mobilisations, de violences, d'actions concertées, de grands partis de masse, tout ce qu'on attache habituellement à l'idée de lutte. Donc c'est une lutte essentiellement symbolique qui a eu son importance, évidemment, dans l'imprégnation des idées, mais il est un peu étonnant de constater qu'à elle seule, elle aurait pu renverser un système réellement vieux comme les sociétés humaines, qui a été universel sur toute la surface du globe, et d'un coup, il se serait effondré juste parce qu'il y a des femmes qui ont écrit des pamphlets. C'est une idée qui, normalement, à un esprit rationnel, apparaît très insatisfaisante. Je suis allée regarder du côté des changements structurels qui ont affecté nos sociétés à ce moment-là. Qu'est-ce qui a changé? Parce que je pense... C'est encore une fois, il y a des documents pour le coup, il y a des témoignages. On sait que à travers tous les siècles, en tout cas depuis que l'écriture existe, depuis qu'il y a des femmes qui écrivent, qui parviennent à laisser des traces écrites, il y a toujours eu des femmes qui souhaitaient avoir un rôle plus important dans la vie sociale, dans la vie économique, politique. Le désir de liberté, le désir d'action, il a toujours habité certaines femmes en tout cas. Mais ce n'est qu'à un moment donné que cette émancipation a pu se produire. Qu'est-ce qui a changé?
Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est aussi l'idée de ne pas dévaloriser les femmes des siècles passés. Elles n'étaient pas plus bêtes, ni moins désireuses de liberté,
etc. Le contexte politique, tout était culturel.
Quelque chose a changé qui a permis cette libération. Donc, dans mon livre, j'essaie de répondre à cette question. Quoi? Donc,
dis-nous.
Oui, non, mais c'est, la question, elle est toute répondue. Le titre du livre, c'est Féminicène, qui est formé sur le mot anthropocène que tu as prononcé dès le départ. L'anthropocène qui est l'âge de l'homme, avec un grand H, de l'humanité, la période où l'humanité commence à marquer son environnement d'une empreinte particulièrement forte. Pour les historiens, la date qui fait le plus sens, c'est la révolution industrielle. Mmh. Et ça fait le plus sens parce que c'est à ce moment-là que tous les usages sociaux, l'organisation de nos sociétés, le mode de vie, les conditions matérielles de nos vies changent d'une façon dramatique, d'une façon vraiment spectaculaire, et où notre monde matériel se transforme de fond en comble. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, matériellement parlant, ce qui nous entoure, les actions qu'on fait du matin au soir, ce qu'on fait...
Notre schéma de pensée, ce à quoi on joue, les jeux vidéo, tout.
Exactement, tout ce qu'on fait, toutes les actions les plus petites qu'on effectue du lever au coucher et de la naissance à la mort, ne sont plus du tout les mêmes que celles que l'homme moyen ou la femme moyenne effectuait il y a quelques siècles. Donc tous ces changements gigantesques qui se sont produits dans notre environnement matériel prennent naissance dans les conséquences de la révolution industrielle. C'est à ce moment-là que toutes les courbes s'envolent, toutes les courbes qui décrivent les tas de facteurs qui accompagnent l'humanité. Et la première de ces courbes, c'est le recours à l'énergie. Mmh. Donc le recours à l'énergie qui s'envole à ce moment-là. Et derrière l'utilisation de l'énergie, la productivité du travail, mais aussi le PIB par tête. Malgré cette croissance de la population, la richesse par habitant croît, elle aussi, dans des proportions jamais égalées dans l'histoire.
Des gens qui deviennent riches. Mais en plus de ça, beaucoup de gens qui deviennent riches en même temps.
Absolument, exactement. Donc c'est une accélération incroyable de tous les processus matériels.
Même la notion de pauvreté, il va falloir qu'on la revoie dans le cadre de l'anthropocène. Mais vas-y, continue.
Complètement. Bien entendu, la notion de pauvreté aujourd'hui n'a rien à voir avec la pauvreté au Moyen-Âge. Donc notre monde change. Et ça a des tas d'implications pour tous, les hommes, les femmes, les enfants, même les animaux domestiques. Mais ça a des conséquences particulières pour les femmes. Parce que, par rapport aux hommes, ça les libère d'une série de contraintes supplémentaires qu'elles subissaient dans le monde d'avant en tant que femmes.
Imaginons, excuse-moi t'attends, mais imaginons non pas quelque chose qui s'est passé sur 20, 30, 40, 50 ans, hein, c'est quelque chose qui n'a pas transitionné du jour au lendemain,
notre posture a changé.
C'est sur quelques petites générations. Mais imaginons, pour qu'on puisse vraiment comprendre cette transition, imaginons que ça s'est passé du jour au lendemain. Genre, alors, explique-moi un petit peu, qu'est-ce qui a fait? Quelle est cette transformation qui a permis à ce que, aussi rapidement, les choses basculent autant pour les femmes?
Alors, la première chose qui se produit avec ce recours à l'énergie, c'est la dévaluation de la force physique. Alors, la force physique n'était pas le facteur le plus important de l'inégalité entre les hommes et les femmes. La force physique était l'un des facteurs qui explique la division sexuelle du travail, à la base. Ça n'explique pas en soi la domination. C'est pas forcément chaque homme qui traîne une femme par les cheveux et la contraint à chaque instant à faire ce qu'il veut. La force physique supérieure moyenne des hommes par rapport aux femmes motivait la division du travail dans les groupes, alors chasse, mais aussi construction d'abris, travaux de force, labour, défrichement dans les sociétés agraires, etc. Alors, mis à part cette division sexuelle du travail, comme c'était la force accompagnait plutôt donc le groupe des hommes, c'était leur avantage comparatif, la force avait du coup, comme les hommes étaient le groupe dominant, une espèce d'aura de supériorité. C'était quelque chose, c'était un attribut que l'homme devait avoir aussi. L'homme devait être fort, comme la femme devait être une bonne mère ou fertile, etc. Et la dévaluation de cette force va avoir des conséquences symboliques dans les têtes. Le fait que les machines deviennent beaucoup plus fortes que l'homme, que le travail physique devient quelque chose qu'on va faire par pelleteuse ou par excavateur et plus du tout par...
Et que le travail physique devient un petit peu celui des gueux là-bas.
Voilà. Alors il a toujours été dans une certaine mesure. Oui, mais il l'était déjà aussi dans l'histoire. Les riches, les puissants, ne se cassaient pas trop à la tâche à bêcher dans le champ. Mais n'empêche que cet attribut de l'homme, la force, devient, on va dire, quasiment inutile. Dans le monde d'aujourd'hui, l'homme a très peu l'occasion de se servir de ses capacités physiques, surtout dans le milieu urbain, surtout dans les classes cultivées, on n'a absolument pas l'occasion de...
La capacité physique, c'est pour se déplacer jusqu'au boulot et travailler et faire les capacités physiques de nos doigts, la plupart
exactement,
du temps.
De nos doigts. La deuxième chose qui se produit, c'est que notre monde, donc j'ai dit qu'il se transforme du point de vue matériel, notre monde se technologise considérablement. Notre quotidien se technologise, c'est-à-dire que nos maisons deviennent remplies de gadgets, d'appareils et d'installations progressivement, à commencer par l'eau courante,
oui,
à commencer par l'électricité qui arrive.
Jusqu'au Wi-Fi, tout ça.
Jusqu'au Wi-Fi, etc. Mais à commencer par l'eau courante et l'électricité, qui étaient des avancées considérables pour le quotidien des gens, qui permettent aux foyers, aux personnes qui font partie du foyer, d'économiser un temps important qui passait avant dans les travaux ménagers. Et pourquoi c'est important pour les femmes? Parce que ce sont les femmes qui s'occupaient de ces travaux.
La machine a rempli le travail de la femme. Lave-vaisselle, lave-linge, cliché, hein. Gros cliché.
Oui, tout à fait. Mais avant le lave-linge et le lave-vaisselle, le simple fait d'avoir de l'eau courante chez soi. Il y a aussi l'externalisation hors du foyer d'une grande partie des activités qui avant étaient dévolues aux femmes. Notamment les vêtements. Ce n'est pas parce que toutes les femmes n'ont pas eu chez elles une machine à coudre électrique. Ce n'est pas pour ça que ça s'est accéléré. Non, aujourd'hui, on sort et puis on va au magasin, on va chez Zara, on va chez n'importe quoi et on s'achète des vêtements à l'extérieur. Donc, c'est une division sociale du travail. La nourriture, c'est pareil. Ce n'est plus nous qui faisons pousser nos légumes dans le jardin. Elle est produite ailleurs. Elle est produite par d'autres gens qui prennent en charge cette tâche, par d'autres gens qui utilisent d'ailleurs des machines, qui utilisent beaucoup d'énergie. La révolution verte, c'est aussi ce qui a permis un accroissement très important de la population parce qu'on a commencé à produire beaucoup de choses à manger. Donc, toutes ces activités qui, avant, ressortissaient du foyer et revenaient à la femme, pour beaucoup d'entre elles, eh bien, sont soit facilitées par la technologisation du quotidien, soit carrément externalisées et assurées par des gens loin d'autres qu'on ne voit pas, on ne sait pas qui ils sont, on sort de chez nous, on prend la voiture, on va au magasin, on remplit le caddie, on revient à la maison, on met ça dans le frigo, qui lui aussi est un appareil, qui a été conçu, produit par quelqu'un, qui stocke cette nourriture. Tout ce qui fait que, dans notre quotidien, aujourd'hui, quel que soit le caractère fastidieux des tâches domestiques, ces tâches n'ont rien à voir avec ce qu'elles ont représenté pour l'humanité jusqu'à le début du XXe siècle. Cette transformation technologique a libéré, littéralement, du temps très important pour tous, mais surtout pour les femmes, parce que c'était surtout les femmes qui s'en occupaient avant. Donc, les femmes obtiennent du temps qu'elles peuvent employer à quoi? Eh bien, à travailler à l'extérieur, pour avoir un revenu supplémentaire pour la famille, dans le cadre toujours de cette division croissante sociale du travail, ce n'est plus une division sexuelle, mais sociale, avec des métiers et des professions qui se multiplient, qui se spécialisent dans différentes tâches. Et puis, elle obtient aussi la possibilité de faire des études, et aussi d'ailleurs de réfléchir. Elle a la possibilité de se mobiliser, je pense qu'elle a aussi à voir avec ce temps libre qui commence à apparaître.
On va poursuivre là-dessus, mais ce qui explique aussi la présence de certaines femmes dans certains métiers, avec une forme de retardement par rapport à l'omniprésence des hommes. On regarde juste le dernier film Oppenheimer de Christopher Nolan, mais c'est un milieu très masculin, des physiciens masculins, même s'il y avait une femme quand même dans l'histoire. Et je remonte un petit peu en arrière. C'est drôle, j'ai une image, tu sais, de cette période de grosse industrialisation où on a vendu tous les moulinex et les machines à laver qu'on sort dans les années 60. On montre toujours la femme en train de faire le ménage. Mais qui est entretenu par l'homme, par le salaire de l'homme, mais sauf qu'on a toujours cette image, alors c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi elle me vient là, mais comme elle a toute cette accumulation matérielle, elle s'ennuie. Parce qu'elle est toujours dans cette vision, ce concept qui datait de quelques dizaines d'années bien avant, limite même, on peut dire 50, 60, 70, 80 ans, d'une femme toujours au foyer. Sauf qu'aujourd'hui, les machines sont là pour lui enlever tout le travail qu'elle a. Et donc, en fait, ça y est, son ménage est fait. Elle regarde sa maison comme ça. Et donc, elle va un peu parler à la Desperate Housewives avec ses voisins, etc. Une image très années 60, d'une Amérique des années 60. Elle s'ennuie au boulot. Elle a juste allé parler, blablater avec quelques personnes parce que c'était mal vu à ce moment-là qu'une femme travaille. Et ça, c'est très drôle. Mais qu'après, il y a eu une fameuse transformation. C'est comme si on s'est dit, bon, bah, il y a une main d'œuvre qui est disponible, qui permet de créer encore plus de croissance. Tu m'arrêtes si je me trompe. Et j'ai pas du tout travaillé la question. Ça, c'est purement mon feeling et un petit peu comment je reconnecte les points. C'est comme si on s'était dit, bon, les gars, on a des points de croissance, on est en compétition face aux autres pays. Et si on faisait travailler les femmes histoire de faire monter ça un peu?
Eh bien, tu n'as pas tort. Alors, juste pour revenir à l'image de la ménagère des années 60 avec son moulinex et son petit tablier.
Et qui s'ennuie dans cette image.
Alors, elle est vraie parce que les années 60 ont été une espèce de période de recul et de retour d'une espèce de discours nataliste et familialiste, de célébration de la famille, la bonne famille nucléaire américaine notamment, mais en Europe aussi. Mais elle est aussi trompeuse, cette image. Parce qu'en fait, la mise des femmes au travail, elle s'est faite par paliers. Il y a eu plusieurs étapes, plusieurs paliers.
Pendant la guerre, il y a eu une grosse mise au travail des femmes.
Oui, exactement. Ça a commencé fin 19e, ça a continué au 20e siècle. Ça a commencé, il y a eu un bond après la Première Guerre mondiale, parce que les femmes, notamment dans les pays européens, ont assuré beaucoup de tâches pendant que les hommes étaient au front. Et ensuite, un bond après la Deuxième Guerre mondiale, un petit reflux. Et après, c'est reparti à nouveau. Donc, ça a été une espèce de... Oui, c'est des images qui sont marquantes, qui montrent que cette idéologie, c'est cette norme de la femme qui ne travaille pas au moins que l'homme et de l'homme qui reste le pourvoyeur de la famille, elle est encore vivante, elle est encore vivace, surtout à ce moment-là. Mais ce n'est pas un vrai retour en arrière. Dans les années 60, les femmes sont bien plus nombreuses à travailler qu'elles ne l'étaient en 1860. Il y a quand même une augmentation graduelle du nombre de femmes qui travaillent.
Ce qui est positif,
Ce qui est tout à fait positif.
Super positif, attention.
Ce qui est tout à fait positif. Donc, même ces périodes de léger recul et de résurgence des clichés n'arrêtent pas ce mouvement. Mmh. Et aujourd'hui, les femmes sont pratiquement aussi nombreuses que les hommes à travailler. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc, cette mise au travail des femmes, tu as dit, c'est une bonne idée, on va mettre les femmes au travail, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que, les femmes obtiennent du temps disponible grâce à l'externalisation de nombreuses activités de plus en plus. Et c'est aussi à ce moment-là, grâce aux conséquences, aux effets de la révolution industrielle, que il y a une dynamique du capitalisme industriel qui pousse à chercher des bras nouveaux. Le 19e siècle, c'est aussi le moment où on tire les paysans des campagnes. Mmh. C'est aussi le moment où on met même les enfants au travail. C'est-à-dire on cherche vraiment, tous les bras sont bons pour faire travailler l'industrie, pour faire travailler la machine.
C'est une petite machine, donc on envoyait très vite des enfants.
Absolument. Et puis les femmes étaient très nombreuses aussi à aller dans les services qui se développent dès ce moment-là, qui accompagnent en fait l'industrie. Le travail des femmes, c'est la rencontre entre une nouvelle possibilité. Elles peuvent aller travailler à l'extérieur parce que les tâches du foyer ne consomment plus la totalité de leur temps. Et il y a une demande de leur travail de la part de la machine économique. Donc la rencontre de ces deux facteurs, disponibilité des femmes accrue et demande du travail féminin, ben, ça fait que ça se fait, les femmes commencent à travailler. Mais je voudrais revenir sur un autre facteur qui a encore plus libéré le temps des femmes, sur le temps d'une vie, qui est peut-être encore plus important que la technologisation du quotidien. Et ce facteur, je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est la baisse de la mortalité infantile. Mmh. Et comme conséquence, la baisse de la fécondité. La baisse de la mortalité infantile date de la fin du 19e siècle, la vraie baisse, malgré tous les efforts avant, voilà, ça ne baissait pas.
Fin du 19e.
Fin du 19e. Et sous l'effet, là aussi, de toute une série de facteurs qui sont des conséquences ou des effets émergents de la révolution industrielle et du développement économique qui s'ensuit, du développement technique et économique qui s'ensuit. Et ces facteurs sont la qualité de l'eau, qui s'améliore parce que l'eau est distribuée dans les foyers, filtrée, etc., de mieux en mieux. C'est la vaccination, antivariolique d'abord, puis ensuite tuberculose, etc., diphtérie, des maladies qui décimaient les petits-enfants. Donc, l'apparition des vaccins, c'est la diffusion des vaccins, en fait, qui font partie d'une... les États européens, notamment, mettent en place une politique sanitaire de diffusion de ces vaccins. C'est pas réservé à une petite élite, c'est vraiment une politique publique.
Ah, réserver ça à une petite élite, ça sert à rien.
Mais absolument. Mais disons, bon, si le marché différemment, on aurait pu imaginer. Mais effectivement, le principe même des vaccins fait que ça doit être massif. Donc, ces vaccins qui se diffusent, ça fait chuter la mortalité infantile de façon très importante. Mais elle subsiste quand même en France, notamment au XXe siècle, début du XXe siècle, elle est encore à environ 70 pour 1000, jusqu'à un an, la mortalité jusqu'à un an. Ce qui l'a fait s'effondrer définitivement, ce sont les antibiotiques.
Ah ouais, ouais.
L'invention des antibiotiques.
Ça, c'est une révolution malade.
Absolument, c'est une révolution qui fait que là, c'est le dernier piqué. Quand on regarde les courbes, voilà, ça descend par palier.
Tu ne meurs plus d'une crise de septicémie.
Non, et puis surtout, les petits-enfants ne meurent plus des maladies infectieuses, angines, pneumonie, etc., qui avant... Pareil, décimer les petits-enfants. Donc ça, aujourd'hui, ce sont des choses qui appartiennent au passé. On est d'accord. Ce sont des choses qu'on voit dans des films.
Totalement.
Aujourd'hui, la mort d'un enfant, c'est un événement exceptionnel qui est d'autant plus tragique parce qu'on ne s'y attend pas et que ce n'est pas normal,
c'est
entre guillemets.
C'est pas du tout considéré comme normal. Ça bouleverse, ça décime.
Ça bouleverse complètement les familles, les parents, les fratries, etc. parce que c'est exceptionnel. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que jusqu'au 19e siècle, c'était le contraire. C'était l'expérience la plus partagée.
Normal, quoi.
Des êtres humains. Ouais. Tous les gens, des exceptions qui étaient complètement miraculeuses, tous les gens perdaient un ou plusieurs, le plus souvent plusieurs enfants. Tous les gens perdaient des frères, perdaient des sœurs et risquaient de mourir eux-mêmes. Un enfant qui tombait malade était un enfant qui peut-être allait mourir. Mmh. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Un enfant qui tombe malade, c'est un enfant qui ira chez le médecin, qui aura un traitement, le traitement va marcher, et l'enfant va aller mieux, il va retourner à l'école. Je pense que c'est un changement anthropologique majeur, dont on ne peut sous-estimer les conséquences pour la structure mentale. Si l'enfant qui naît est un enfant qui vivra, on est presque sûr de ça, on part de cette hypothèse, de ce postulat, eh bien, ça veut dire qu'on peut planifier sa vie et décider de faire un enfant ou deux enfants, le nombre d'enfants qu'on décide, parce qu'on sait que quand on les mettra au monde, eh bien, ces enfants vont vivre. On n'est plus obligé de se dire, il faut que j'en fasse un, deux, oui, bah non.
Sauver le patrimoine, tout ça.
Oui, et puis d'abord, c'est un désir humain naturel d'avoir des enfants qui survivent.
Je pensais au gars qui est en mode, ouais, il faut une descendance pour
survivre. Deuxièmement, oui, c'est une possibilité de se perpétuer, de transmettre. Et puis, encore une fois, c'était longtemps une nécessité économique. Mmh. Voilà, donc cette baisse de la mortalité infantile me semble, pour les femmes, plus importante encore que la maîtrise de la contraception. La maîtrise de la contraception, qui elle aussi est une conséquence du progrès technologique, du progrès médical, avant d'être un droit, c'est un acquis scientifique. Eh bien, cette maîtrise de la contraception, c'est un peu la cerise sur le gâteau, qui va parachever la maîtrise par les femmes de leur fécondité. Mmh. Mais avant d'avoir recours à la pilule ou aux moyens contraceptifs, il faut pouvoir se permettre de ne pas faire beaucoup d'enfants. Et ça, c'est la baisse de la mortalité infantile qui le permet. Mmh. Et la dernière pierre, disons la dernière conséquence importante du progrès technique et économique, de l'enrichissement prodigieux de nos sociétés au terme de ce processus, ce sont les structures de soutien collectif que les États européens, occidentaux, aux États-Unis aussi, mettent en place, notamment au XXe siècle, tout ce qui concerne la sécurité sociale, qui permet d'étendre à tous les bienfaits de la médecine, donc de généraliser cette possibilité de protéger les enfants des maladies, de la mort, et puis aussi les systèmes de retraite. Les systèmes de retraite, c'est ce qui libère les êtres humains de l'obligation de faire des enfants un investissement.
C'est ça.
Les enfants ne sont plus forcément un investissement, ça peut devenir un choix et pas quelque chose qui est nécessaire. Sinon,
notre survie passe par un modèle de société qui a développé le système de retraite.
Exactement.
De là, on va pouvoir se nourrir, on ne doit pas faire des enfants, en tout cas prévoir d'avoir des enfants qui vont s'occuper
de nous. En tout cas, pas dans ce but.
Pas dans ce but-là,
voilà.
Bien sûr.
Et donc, l'ensemble de ces changements, baisse de la mortalité infantile, maîtrise de la contraception, mais aussi ces systèmes de protection, c'est ce qui fait que le slogan « un enfant si je veux, quand je veux » peut devenir une réalité ou disons un imaginaire que les femmes peuvent s'approprier. Mmh. Pour que ce slogan ait un sens, il faut que tous ces changements matériels aient eu lieu. Dans un monde d'avant, il n'a littéralement aucun sens.
Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser? Parce que tu as dit un truc mais qui m'a tellement... Excuse-moi, je fais une très longue question, mais tu as dit quelque chose qui m'a tellement marqué, c'est que c'est devenu la norme, c'est devenu normal aujourd'hui. Et effectivement, si dans le voisinage, une personne perd son enfant, c'est un désastre sans nom qui marque les esprits. C'est un traumatisme. On n'est pas prêt, nous, en tant qu'êtres humains, de revivre des choses comme ça?
Non, on n'est pas prêt du tout. Et non seulement on n'est pas prêt, ça, j'en suis convaincue, mais on n'est même pas prêt théoriquement. C'est-à-dire que cette conscience qu'on vit un moment exceptionnel de ce point de vue-là, elle fait complètement défaut. J'ai l'impression qu'on a complètement naturalisé la survie des enfants, comme on a naturalisé tout un ensemble d'éléments de confort qui nous entourent.
Parce que c'est notre environnement, on est né là-dedans, à partir du moment où tu es dans un
contexte. C'est notre environnement, exactement.
C'est comme ça.
Exactement. On avait encore au début, et même au milieu du XXe siècle, des gens qui le rappelaient.
Les témoignages, bien sûr.
Oui, les témoignages, et puis on le voyait dans... Je cite dans mon livre, un livre de Paul de Kreif qui s'appelle « Chasseurs de microbes », sur des grands scientifiques, chercheurs en médecine, qui ont trouvé les antidotes aux principales maladies, donc Pasteur, Koch, etc. Et c'est un livre qui est empreint d'accent complètement extatique, parce que à cette époque, et ça a été écrit en 1924, je crois, c'est encore très récent. Cette possibilité de se libérer des maladies est encore très récente, cette possibilité de voir des gens guérir ou ne pas tomber malade alors qu'ils auraient dû l'être. C'est encore une merveille. Aujourd'hui, on est très loin de ça et c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup. On, on, on a l'impression qu'on a droit un petit peu à cet environnement, que c'est normal.
C'est, pas,
que...
c'est même pas qu'on a l'impression, c'est qu'on le revendique.
On le revendique,
suggère
exactement.
Qu'on a droit voilà. à ça.
Alors, c'est pas du tout pour remettre en cause l'idée que c'est bon d'avoir ce droit. C'est pas pour dire, ah bah, contentez-vous de peu, etc.
Non, mais qu'il faut comprendre pourquoi.
Mais il faut comprendre pourquoi et il faut se souvenir du fait que c'est très récent et qu'il y a quelques 150 ans, ça ne semblait pas du tout être un droit, ni même parfois une possibilité. Pour les êtres humains. Donc, le caractère exceptionnel du moment que nous vivons. Et effectivement, si on se projette dans l'avenir, c'est là que ça devient un peu, comment, inquiétant, d'imaginer ce qui va se passer avec nos sociétés prospères, nos sociétés stables, habituées au confort et à la survie du plus grand nombre, si le monde matériel en vient à changer négativement. Donc ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il va ou non changer négativement? Donc, tu as évoqué The Limits to Growth, le rapport de Rome. Alors, il y a plein de scénarios. Dans ce livre, du plus optimiste au moins optimiste, bon, même le plus optimiste n'est pas hyper optimiste non plus, mais oui, ce livre prévoit de graves perturbations, surtout par la déplétion des ressources disponibles. Il est surtout centré sur la crise des ressources, mais à côté de la crise des ressources, il y a aussi un autre facteur qui est celui de la crise climatique. C'est-à-dire que c'est lié, évidemment. La crise climatique est en partie une conséquence de l'exploitation massive des ressources. Donc c'est là que les choses deviennent dialectiques. Parce que quand on aborde la question du progrès technologique, technique, le développement économique, etc., en général, il y a deux positions. Il y a des gens qui sont qui voient une force démiurgique positive qui a sorti l'humanité de l'état de bête de seconde catégorie pour la porter sur la Lune, pour lui donner une puissance et un confort inégalé. Et puis, il y a ceux qui y voient une espèce de cancer de l'humanité qui nous ronge, qui nous a séparés de la nature, qui nous a privés d'un mode de vie primitif, idéalisé, etc., et qui nous conduit à notre perte. Et en fait, c'est les deux à la fois. Les deux ont une part de vérité. Le progrès technologique et le développement économique qui l'a accompagné sont une force qui a sorti l'humanité d'un état, on peut dire, sous-optimal. De fonctionnement aussi. Ouais. Personne ne peut dire que un mode de vie dans lequel un enfant sur deux ne survit pas est un mode de vie désirable. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas se le dire, quelle que soit par ailleurs sa naturalité. Oui, c'est quelque chose qui nous a permis d'avoir des possibilités insoupçonnées, et notamment pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Mais c'est aussi une force, elle est ambivalente, c'est la dialectique du progrès technique. C'est aussi une force parce qu'on y a eu recours probablement d'une façon immodérée et pas forcément réfléchie, qui a d'importants effets de bord et qui, par son existence même, est en train de déstabiliser notre environnement. Donc nous sommes en train... La même force qui nous a fait tant de bien est en train de nous préparer peut-être des crises plus importantes que celles auxquelles on n'a jamais eu à faire face. Donc c'est assez inconfortable à tenir les deux ensemble. Mmh. Voilà, mais je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que ce n'est que en faisant tenir ces deux choses ensemble qu'on peut, je pense, à mon avis, réfléchir de façon intelligente aux solutions à trouver. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le monde de demain? Alors ça, évidemment, ça dépend complètement de la manière dont les choses vont concrètement se passer. Quand on passe dans la prospective, on se sent toujours un peu Madame Irma et c'est très facile après de critiquer les prédictions parce qu'elles sont forcément au moins en partie fausses. Mmh. La seule chose qu'on peut faire, c'est explorer des hypothèses. Puis on regarde à quoi ça conduit et puis ensuite on se dit que si ce sont des conséquences trop négatives, il faut tout faire pour éviter que cette hypothèse se réalise. À mon avis, c'est ça la manière constructive d'aborder ces prédictions. Si on simplifie vraiment à outrance, la déplétion des ressources premières, notamment énergétiques, conjuguée à la crise climatique, nous conduit à un monde qui sera probablement moins confortable, plus pauvre, plus chaotique aussi, et très certainement plus violent. Donc ça, ce sont les caractéristiques du... Parce que moins de ressources, c'est plus de conflits pour ces ressources.
On se les dispute.
Exactement,
Quand elles sont abondantes, on se les partage, on commerce.
En tout cas, on peut partager.
On peut le faire,
on les partage pas forcément. On peut envisager de les partager.
Ouais.
Quand il y en a plus beaucoup...
On n'envisage pas du tout les partager.
On n'envisage pas du tout. C'est moi avant tout, ma famille, mon clan, mon pays à la rigueur, et puis voilà, les autres crevés. Dans mon livre, j'explore une autre conséquence du progrès technologique qui, elle aussi, est ambivalente. Et alors, c'est intéressant parce que ce n'est pas, pour le coup, une conséquence ni de la crise des ressources, ni du réchauffement climatique. Mais c'est quelque chose qui me sert de métaphore et à la fois est très important pour la condition des femmes dans le monde à venir. C'est le développement de l'antibiorésistance.
L'antibiorésistance.
Oui, parce que les antibiotiques, On peut les comparer en fait à notre société thermo-industrielle. Mmh. Ils ont les mêmes caractéristiques. Ce sont des produits miracles qui nous ont permis de gagner complètement la bataille contre les maladies infectieuses d'une façon très facile, enfin avec une facilité stupéfiante. Vous avez une angine, voilà, hop, bactérienne, et ben on vous file du clavoxyl et hop, amoxicilline, plus d'angine. En 3 jours, les bactéries sont mortes. Elles sont à la renverse, c'est fini. Hop, 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 on se lève et puis on va travailler. Alors qu'avant, on aurait été cassé pendant 2 semaines, on aurait eu des conséquences, peut-être sur le cœur, peut-être sur les articulations, etc. Donc, ce sont des choses qui ont facilité la vie de nos sociétés d'une manière incroyable, et donc on y a eu recours, un peu comme aux énergies fossiles, d'une manière massive. Massive et peut-être inconsidérée, sans se dire que ce recours massif aux antibiotiques va peut-être entamer leur efficacité.
J'ai compris où tu veux m'emmener. J'ai compris, enfin je crois avoir compris, mais vas-y continue.
Voilà, et en fait les premières résistances aux antibiotiques sont apparues très très tôt,
ouais.
Parce que les bactéries sont beaucoup plus anciennes que nous et sur les 3 milliards d'années d'existence, elles se sont adaptées à bien des situations.
Ouais.
Donc ça ne leur a pris que quelques décennies en fait, et même
je crois que c'est
20 ans pour la pénicilline, ou même moins de 20 ans, et puis ensuite à chaque nouveau produit, elles trouvaient très rapidement en 10, 20, 30 ans une réponse.
C'est un peu l'évolution des espèces, il y a une erreur dans la duplication, cette erreur permet de créer une défense et voilà, enfin excuse-moi, mais ça fait frémir, j'ai eu des frissons qui me sont passés dans le dos. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est à une rupture énergétique, on en a beaucoup moins, et que nous avons développé des tonnes et des tonnes, on va dire, nous avons créé des bactéries résistantes à tout, le moment, en fait, où, admettons, notre système pharmaceutique tombe à l'eau ou que machin, on aura développé des maladies qui seront tellement puissantes, on n'aura pas l'occasion de les soigner, qu'en fait, ça va être une hécatombe.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est considéré par l'OMS comme le problème numéro 1 de santé publique à venir. On en parle très peu, on dit juste les antibiotiques, c'est pas automatique, mais enfin, c'est tout.
C'est
la publicité il y a 20 ans de la Sécurité sociale, mais à part ça, on n'en entend pas beaucoup parler, c'est assez incroyable. Alors que là, l'année dernière, en 2022, dans The Lancet, ils ont publié une étude massive sur 200 pays menée par un groupe de chercheurs qui montre que là, en 2019, je crois que c'était une étude sur 2019, il y a eu 1,3 million au monde de décès directement imputables à l'antibiorésistance et 5 millions de décès associés, c'est-à-dire par affaiblissement de l'organisme.
C'est en train de monter ce chiffre.
Et c'est un chiffre qui monte en flèche. Donc, et qui a notamment fait un bond au moment du Covid. Parce que bien que le Covid soit un virus, mais on a administré de façon massive des antibiotiques à des millions, des centaines de millions de malades.
On fait presque encore des antibiotiques pour des virus?
Oui, mais ce n'est pas entièrement idiot comme idée. Parce que quand on a une infection virale, souvent elle dégénère en infection bactérienne.
Ça fragilise le corps.
Ça s'appelle la surinfection. Et les personnes fragiles, les personnes un peu âgées, qui risquent, qui vont presque à coup sûr développer ou on pense qu'elles peuvent.
Un virus, système immunitaire qui baisse.
Oui, bien sûr.
En profite.
Exactement. Ça s'appelle la surinfection. Donc c'est pas entièrement absurde, mais c'est vrai que c'est un peu probablement excessif. En tout cas là, au moment du Covid, il y a eu un bond dans l'utilisation des antibiotiques. Dans certains pays, ça a augmenté de 500%. Enfin, ça a été incroyable. Et donc aujourd'hui, il y a des chercheurs qui disent on a fait un bond de 10 ans. C'est-à-dire que le Covid nous a fait sauter 10 ans dans la montée de l'antibiorésistance.
Waouh.
Donc oui, c'est un vrai problème.
On est en train de créer un instrument de notre propre chute démographique en fait.
Oui, alors après
avec plein de facteurs, j'imagine.
Oui, alors après, il faut pas être défaitiste, et la science ne reste pas en place, il y a des gens qui travaillent. Malheureusement, ils ne travaillent pas sur de nouveaux antibiotiques. Ils ne travaillent pas sur de nouveaux, ou presque, il y a très peu de nouveaux antibiotiques en étude parce que ce n'est pas un modèle économique rentable. Ce n'est pas un modèle rentable parce que justement il y a la montée de l'antibiorésistance, et comme il y a la montée de l'antibiorésistance, les nouveaux antibiotiques, on prévoit de les consacrer, de les réserver à l'usage hospitalier, donc ça ne sera pas des grands profits, ça ne sera pas un usage de masse. Donc il y a très peu de médicaments en essai clinique. Je ne sais plus, je cite le chiffre, je crois qu'il y a eu 40 nouveaux antibiotiques en essai clinique déjà au stade des essais cliniques contre 6000 anticancéreux.
Ah ouais.
Donc ça montre l'écart de dans l'effort de recherche qui est fait, mais il y a d'autres recherches sur les phages, sur d'autres manières de combattre les bactéries. Donc peut-être que on va quand même y arriver. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse dans le livre, ce que j'essaie de montrer, c'est que entre cette crise des ressources, la crise climatique et cette montée de l'antibiorésistance, il y a une espèce de télescopage de différents problèmes qui malheureusement risquent d'avoir une temporalité assez similaire. C'est-à-dire que c'est dans les 10, 20, 30 années à venir qu'on risque d'avoir l'ensemble de ces problèmes qui se percutent un peu, ce qui, pour le coup, risque de poser problème à nos sociétés pour y apporter une réponse structurée. Parce que le problème, quand différents problèmes s'amoncellent, c'est qu'on part au plus pressé.
Voilà. On l'a vu avec la pandémie. Hein.
Exactement. On l'a vu avec la pandémie. Et puis, on risque de le voir aussi avec l'énergie. On part au plus pressé. Et du coup, on n'a plus le loisir de mettre en place des solutions de long terme qui auraient pourtant été nécessaires.
Ce serait que des réponses court terme.
Voilà. Et là, c'est fini. Parce que ça, ce sont des problèmes de long terme. Ce sont des problèmes vraiment structurels, vraiment systémiques. Et voilà. Donc, je suis totalement convaincue de l'intérêt de la science. C'est même un plaidoyer pour essayer d'orienter la science vers la recherche des solutions. Mais le problème, c'est qu'on n'a aucune assurance. Les personnes très optimistes, les scientos-optimistes, je ne sais plus comment on les appelle, ceux qui pensent que de toute façon, on va trouver des solutions à ceci et à cela, et tout ça sera résolu.
Les technosolutionnistes.
Je comprends très bien le mécanisme. Je suis moi-même pleine d'admiration envers la science. Le seul problème, c'est que ce n'est pas garanti. Il n'y a aucune garantie, précisément à cause de cette séquence temporelle qui ne me paraît pas très bien engagé. C'est-à-dire que les problèmes ont l'air de survenir un peu plus rapidement que les solutions qu'on y apporte. Donc, en tout état de cause, ce n'est pas du tout certain qu'on va réussir à trouver des solutions techniques. Et donc, j'essaye de participer à cette tendance qui consiste à alerter le plus possible le public, en l'occurrence ici, ce sont les femmes, sur la nécessité d'agir. Pour essayer de trouver ces solutions, notamment techniques, notamment technologiques, scientifiques, pour essayer d'amortir l'ensemble de ces crises, de ces transformations qui risquent d'arriver. Donc, c'est pas des prédictions crépusculaires que je fais, ce sont vraiment des hypothèses que j'essaie d'explorer en se disant que on a vraiment intérêt à travailler sur des solutions très concrètes pour l'ensemble de ces problèmes et dès maintenant. Sans attendre que par exemple, l'antibiorésistance entre dans une phase critique.
C'est ça. En fait, éviter qu'on réagisse au phénomène de crise. Parce que si maintenant tu réagis à la crise, on sait qu'un château de cartes, ça peut s'effondrer très, très vite, en quelque sorte. Que l'ine exponentielle, à mon avis, à faire x2, tu arrives au bout des ressources, ça tombe aussi vite que ça a redémarré. Alors, certains disent qu'on est déjà, en fait, dans cette phase de transformation. On peut pas le savoir. L'avenir n'existe pas, en quelque sorte. C'est à nous de le faire, mais on doit le faire avec des modèles qui sont préexistants. Ce qui est sûr et certain, et ça me ramène de nouveau à ton livre et un petit peu cette conclusion, c'est que, en sachant tout ça, à réagir à du court terme par rapport à quelque chose qui se passe à chaud, une chute démographique, fait qu'en fait, il peut y avoir, en fonction du système politique qui est en place, une décision de dire, OK, mesdames, vous quittez vos boulots, vous restez à la maison, vous retournez à la maison, il va falloir absolument reconstruire la France, repeupler le reste du monde, et ça ne sera pas ces mots-là qui seront utilisés, mais que le système tende en fait à limiter la casse, et alors en réduisant les libertés des femmes.
Exactement, et pas forcément avec des mots d'ailleurs, il n'y a même pas besoin forcément qu'il y ait des mots, peut-être, qui accompagneront, mais... Voilà, ça peut se passer.
On va pas dire formellement, vous devez aller faire des gosses, non.
Exactement.
C'est quelque chose qui se remettrait d'une façon un peu insidieuse et même au sein même des familles, peut-être aussi, en quelque sorte.
Tout à fait. Et c'est pourquoi, en fait, à la fin, ce que j'essaie de dire, c'est que le féminisme, différents courants féministes d'aujourd'hui, souvent mettent l'accent sur la nécessité de défendre des droits. Les femmes
doivent... Un système business as usual, un système comme dans lequel nous sommes aujourd'hui. Un paradigme similaire.
Pas forcément, parfois, s'il faut tout changer, etc. Mais elles insistent beaucoup sur l'aspect légal. Il faut dénoncer les inégalités restantes et il faut changer les lois pour traquer les imperfections, pour faire respecter ces lois, etc. C'est tout à fait juste dans le monde dans lequel on est. C'est très important d'avoir des droits et de les faire respecter. Le problème, c'est que si le monde change et que les conditions matérielles changent, si les conditions qui permettent à ces lois d'exister ne sont plus là, ça nous fera une belle jambe. En fait, je prends toujours l'exemple de la pilule. On peut défendre le droit à la contraception, qui est un droit très important pour les femmes qui veulent maîtriser leur fécondité et donc ne pas être réduites justement à un statut uniquement de reproductrice. C'est très important. Mais s'il n'y a plus de pilule qui est produite, s'il n'y a plus d'énergie pour faire fonctionner l'usine, si elle n'est plus distribuée dans les différentes pharmacies, vous arrivez dans la pharmacie, vous dites « je veux ma pilule », mais il n'y en a pas. Donc vous avez le droit d'avoir la pilule, mais vous n'avez pas de pilule. Et là, pour le coup, le droit devient vide de sens, c'est-à-dire qu'il devient abstrait.
Pénurie.
Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que à côté de cette attention au droit et à l'aspect légal, à l'aspect aussi des mentalités, etc., les féministes devraient faire très attention aux éléments matériels Et l'action en faveur de la stabilité du système ou d'une transition maîtrisée, amortie vers le monde de demain, quel qu'il soit, c'est aussi une action en faveur des femmes. Si on travaillait à préserver le système médical, par exemple, qui permet l'existence de produits efficaces contre les maladies infectieuses qui font que les petits enfants ne meurent pas, c'est éminemment féministe. C'est-à-dire que concrètement, pour la vie concrète des femmes de demain, de nos filles par exemple, ça sera très important de savoir quel est leur horizon dans ce domaine. Est-ce que leur horizon va être des enfants qui meurent ou des enfants qui ne meurent pas ? Ça change tout. Et ça va pas venir parce qu'on va dire qu'il faut respecter des droits. Ça va venir parce qu'on va trouver des solutions pour que pour contrer cette antibiorésistance, parce qu'on va trouver des solutions pour assurer un approvisionnement en matières premières nécessaires à la production de certains médicaments, parce qu'on va trouver un moyen de stabiliser la société pour qu'elle ne parte pas en sucette, en pure violence avec des affrontements, etc., qui rendront le statut des enfants et des femmes beaucoup plus précaire. Donc tout ça, ce sont des choses qui me semblent à moi complètement fondamentales. Et donc, je plaide beaucoup en faveur de cette approche aussi très pragmatique. Et donc, forcément, je les incite à s'engager dans des tas de filières où elles ne vont peut-être pas spontanément aujourd'hui, qui relèvent de la technique, de la science, de la technologie.
Moi, je vous dis, allez choper ce livre. Alors, c'est pas la bonne couverture, hein, parce que c'est ta version.
C'est ça, c'était les épreuves.
C'était les épreuves, exactement. Ouais. Je vous invite vraiment à aller choper Féminicène. C'est intéressant de comprendre un petit peu toute cette transition de l'émancipation des femmes jusqu'à aujourd'hui. Et avec ces données qu'on a réussi à récolter, parce que c'est des données éprouvées, maîtrisées, mesurées, on sait ce qui s'est passé, et ben, se demander, OK, qu'est-ce qui va se passer demain? Merci. Vraiment, j'ai envie de te poser une dernière question avant qu'on se laisse. J'ai une fille, forcément. J'ai peur de la. J'ai envie qu'elle puisse jouir de cette continuité d'émancipation des femmes. Je voudrais qu'elle puisse être maître de son destin. Moi, la question que j'ai à te poser, c'est cette notion que la décroissance des flux physiques, ressources qui diminuent, donc population, tout, donc pas la décroissance en termes de projet de société. Beaucoup de détracteurs disent ouais, mais c'est un retour au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est passé, c'est un temps qui n'existe plus. Nous sommes aujourd'hui avec des acquis sociaux, avec des connaissances scientifiques qui n'ont jamais existé. Est-ce que pour toi, il est probable, il est plausible que tous ces acquis, que ce soit sociaux, que ce soit en termes de développement et de connaissances scientifiques, philosophiques, sociologiques, tout ce qu'on a réussi à atteindre, et morale surtout, je parle vraiment bien de la morale et de nos accords internationaux, notre justice qu'on a mis en place, puisse résister aux hétéronomies, contraction énergétique, diminution, chute, en les prenant en compte et en créant un modèle de société demain de la contraction énergétique, de la sobriété, du moins, mais tout en pouvant continuer à faire en sorte que l'humain se sente bien. Grosse question. Là, t'as pas de boule de cristal, mais là, ça nous amène. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu sens possible? Et puis, ton conseil vis-à-vis des gens qui nous regardent.
Oui, non, je n'ai clairement pas la boule de cristal. C'est une question, comme tu dis, en partie philosophique. Ça dépend aussi de la vision qu'on a de l'être humain, de son histoire. Alors, je serai un petit peu marxiste, peut-être, dans ma réponse.
J'adore.
Ce n'est pas la conscience qui détermine l'existence, c'est l'existence qui détermine la conscience. Ça ne veut pas dire que nos conditions de vie déterminent mécaniquement les systèmes d'idéologie, les superstructures mentales, religieuses et autres. Ce n'est pas mécanique. Mais nos conditions d'existence dessinent un périmètre de ce qui est possible. C'est-à-dire qu'une société dénuée de tout, trop primitive, il y a des structures mentales qui ne peuvent pas se développer dans cette société, tout simplement par manque de possibilités de s'y consacrer. Il y a une espèce de cercle de possibilités que dessinent les conditions matérielles. Donc je pense que pour essayer de parvenir à un monde, comme tu dis, de demain, qui soit peut-être moins abondant, mais quand même décent et potentiellement heureux pour les générations qui vont suivre, il est avant tout très important de contrôler la transition vers ce monde. Parce que beaucoup de choses dépendent de la manière dont ça va se passer. Est-ce que ça va être un effondrement brutal? Est-ce que ça va être une descente un peu contrôlée? Est-ce que ça va être carrément quelque chose de très presque indolore? De ça vont dépendre beaucoup de choses. Parce que ce qui casse les sociétés, ce qui casse les savoir-faire, ce qui casse les structures existantes, c'est la soudaineté, ce sont ces moments où d'un coup quelque chose arrive, la désorganisation, le chaos qui survient. Et là, oui, beaucoup de choses peuvent se perdre. Alors, moi, je dis, d'une façon peut-être un peu optimiste dans mon livre, qu'à mon avis, ce qui ne risque pas trop de se perdre, c'est le savoir.
Oui.
Parce que, a priori, même si des produits peuvent en venir à en manquer, si l'énergie peut venir à manquer, au moins, on retournera pas au Moyen-Âge du point de vue des connaissances. On va pas
on
se
s'est
dire
fabriqué
que...
une éolienne. Hein.
On s'est fabriqué une éolienne.
Attention, pas avec le même type de rendement, mais...
Oui, enfin, les ingénieurs savent.
Ouais.
Après, on m'a objecté que ce n'est pas vrai, que des connaissances peuvent se perdre entièrement dans des grands effondrements. Alors, je le pense aussi, en fait. Je l'ai écrit un peu comme ça, de façon optimiste, pour ne pas apparaître trop pessimiste, comme on dit, les doomers ouais. qui pensent que c'est la fin du monde, etc. Donc, je pense
qu'il y a plus de courant et tout sur Wikipédia, on est dans la merde. Hein.
Exactement. C'est-à-dire que je pense que des pans de savoir peuvent se perdre, mais probablement que d'autres pans de savoir peuvent survivre, ce qui va faire qu'on ne partira pas du même point, etc. Mais vraiment, je pense que beaucoup de choses dépendront de la manière dont ça se passe au moment où on passe d'un état à l'autre. Donc, il est vraiment nécessaire de prendre conscience de la gravité des changements qui sont en train d'arriver. C'est nécessaire pour les femmes de comprendre que ça les concerne beaucoup et de manière très spécifique. Ça ne garantit pas qu'on va arriver à une société décente dans les nouvelles conditions. Mais si on n'y réfléchit pas, à mon avis, là pour le coup, je pense qu'on n'a aucune chance d'y arriver. Parce que si on ne réfléchit pas et qu'on laisse les choses arriver, oui, elles vont arriver comme un train qui vous arrive en pleine face.
T'as pas peur que le féminicène soit récupéré par des hommes qui aiment bien essayer de casser du sucre sur le dos des femmes et tout ça en disant « Ah, mais vous avez vu, vos luttes, elles servent à rien, elles vous dépassent. » Je vous dis ça avec le cœur parce que je pars du principe que moi, j'ai envie d'un jour expliquer que les luttes sociales de ma communauté ne sont pas simplement dues au fait qu'on a décidé de briser les chaînes, que ça va plus loin que ça. Et j'ai peur d'être récupéré moi-même. Donc, t'as pas peur d'être récupéré par des gens qui veulent le statu quo?
Oui, bien sûr. Alors, ce livre, je pense, peut parler beaucoup aux conservateurs, qui d'ailleurs peuvent y voir un motif d'espoir et pas du tout d'inquiétude. Parce que si on retourne à une société plus où les femmes reprennent un rôle plus familial, et les hommes...
Égo du patriarcat.
Voilà, certains peuvent y voir un objectif désirable. Donc, ils peuvent dire « Pourquoi tu t'inquiètes? Ce n'est pas la peine de chercher des solutions, au contraire, il faut s'en féliciter. » Ça correspond à leurs convictions. C'est vrai que ce ne sont pas les miennes, ce ne sont pas les présupposés avec lesquels je suis partie. Moi je suis plutôt inquiète de cet avenir qu'heureuse, mais néanmoins il me semble que décrire ce qui est structurel dans les transformations qui nous ont permis d'en arriver là, ça ne veut pas dire qu'on dévalorise les combats des femmes ou les luttes. En fait, ce n'est pas comme ça. La connaissance ne peut pas dévaloriser. Il s'agit de comprendre. Et quand on comprend, on peut agir d'une façon plus efficace. Il y a une exergue qui ouvre le livre, c'est une citation de Engels qui cite lui-même Hegel et qui dit que la liberté, c'est l'intellection de la nécessité. La liberté ne consiste pas dans une libération fantasmée des lois de la nature, elle consiste à comprendre ces lois et à agir de façon déterminée pour les mettre au profit, pour se servir de ces lois pour parvenir à ses fins. Donc, comprendre la manière dont les choses se sont passées, comment on a pu obtenir cette émancipation, c'est quelque chose, au contraire, qui doit nous servir à ne pas la perdre. Donc, oui, alors les gens, après, trouvent l'intérêt qu'ils veulent dans un livre. Donc, s'il y a des personnes qui l'interprètent d'une autre façon, elles sont libres de le faire. Mais à mon avis, pour des personnes réellement désireuse de maintenir cet état d'égalité relative qui n'est pas parfaite, mais qui est néanmoins beaucoup plus avancée que les autres sociétés qu'on a connues entre les hommes et les femmes, je pense qu'elle devrait se réjouir des tentatives de comprendre ces éléments concrets qui le permettent. Parce que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est maintenir ces conditions de possibilité. Ça sert, c'est pas en les niant et en disant « mais non, ce qui compte, c'est les luttes, etc. » Bah oui, mais le problème, c'est que l'avenir, malheureusement, à mon avis, risque de leur donner tort. Donc...
Je résume, prendre en compte les données concrètes et factuelles de physique du passé qui nous ont permis d'arriver à ce niveau-ci aujourd'hui, et en les prenant en compte, anticiper en fait simplement leur réduction, la baisse, de manière à conserver le mieux possible ces beaux acquis sociaux qui permettent quand même à ce qu'on soit bien entre nous et à ce qu'on évolue dans un sens positif en quelque sorte.
Exactement, c'est-à-dire c'est agir d'une façon rationnelle et non pas juste incantatoire. Ce n'est pas juste dire « j'ai droit à », c'est « qu'est-ce que je peux faire pour que ça advienne ?»
Waouh, Vera, merci pour cette incroyable conversation. J'ai adoré.
Merci.
Je ne sais pas si tu te mets à écrire autre chose, mais sache que tu seras toujours la bienvenue. Nous, on vous met le lien du livre ici en commentaire. Abonnez-vous, likez, commentez, vous connaissez, vous savez comment ça se passe. L'abonnement est très important parce qu'on a remarqué en fait que c'est plus ou moins 10 à 15% des gens qui nous regardent qui sont abonnés. Donc n'hésitez pas, hein, si jamais vous voyez le petit truc qui apparaît là, cliquez sur vous abonner, ça nous fait vachement plaisir. Et puis le Tipeee, ça c'est si vraiment vous avez envie de filer un gros coup de main, notamment au réalisateur ici derrière qui est très content pour ce nouveau matériel qu'on vient de ramener sur cette chaîne pour la première fois. Ah oui, c'est grâce à vous, on vous donnera, on vous fera une petite vidéo un petit peu pour vous expliquer les avancées. Ben, n'hésitez pas, le Tipeee aussi est en description. À très bientôt sur Limite et encore merci à toi Vera, je te fais un check.
Merci.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous rappelle qu'il est également disponible sur YouTube en vidéo. Et nous sommes aussi présents sur les autres réseaux sociaux. Retrouvez nos articles et notre actualité sur le site limite.media. Et si Limite existe, c'est intégralement grâce à vous. Vous pouvez nous aider en envoyant un don sur Tipeee ou encore PayPal Me. Mais le plus important, si vous aimez notre travail, c'est de le partager tout autour de vous. Merci et à bientôt sur Limite.
Limite. Quelle est ta définition du réel?